Recueil au seuil de l'invisible de Noël Roger. Les secrets de Monsieur Merlin. Dans une vallée du Périgord, au fond d'un parc touffu, s'abrite le manoir délabré que les habitants de Saint-Roch nomment, avec une certaine emphase, le château de Landiac. Pendant un quart de siècle, ses fenêtres demeurèrent closes, des plantes folles verdirent les allées, le vieux jardinier perdait la tête, vaincu par les ronces triomphantes. Le dernier des Landiac, après de longues études à Paris, voyage en Asie ou en Afrique, disait-on, ou bien il travaille chez Lumière. Il ne revint pas au pays lorsque mourut son oncle de Périgueux, le seul parent qui lui resta. On s'attendait à voir mettre en vente la maison abandonnée. Les vieilles gens de Saint-Roch se rappellent encore un petit garçon aux boucles blondes, jouant sous les futaies ou galopant le long des allées, cramponné à la crinière de son cheval, puis un jeune homme rêveur qui aimait trop les livres. Et tous de hocher la tête, on ne reverra plus Monsieur Merlin. Un dimanche de mars se répand la nouvelle de son retour. Le château de Landiac ouvre toutes ses fenêtres, le jardin se nettoie de ses mousses, 2 semaines plus tard, une limousine noire traverse la bourgade et s'arrête devant la poste. Les Saint-Rochois, sur leur seuil ou derrière leurs vitres, peuvent contempler une silhouette mince, un visage encore jeune, sous les abondants cheveux déjà gris. Monsieur de Landiac répond au salut de façon si distante que personne n'ose l'aborder. Une équipe de maçons transforme l'intérieur de la gentille aumière. Le soir à l'auberge, il se laisse questionner. Chaque jour, un camion arrive, déversant des livres, des appareils dont ils ignorent l'emploi, des machines, des instruments. On aménage sous les combles une bibliothèque et un vaste laboratoire. Des électriciens venus de Paris installent des prises jusque sur les arbres, enterrent des fils dans les allées, autour de l'étang et du garage. Monsieur de Landiac se borne à jeter quelques ordres brefs et dédaigne de les motiver. « Il en sait long, Monsieur Merlin, » se récrient les travailleurs. « Peut-être qu'il veut donner des fêtes de nuit, hasard de quelqu'un. » Les jours passèrent, ouvriers et techniciens disparurent. Monsieur Merlin s'enferma dans sa demeure, dont il avait négligé de faire recrépir les façades, servi par un vieux ménage de Bretons, inabordable autant que leur maître, à 2 pas de Saint-Roch, dans une île de solitude et de silence, le dernier des Landiac se livrait à ses mystérieuses besognes. Il cherche à faire de l'or, assurait les gens bien informés. Il travaille pour le gouvernement qui n'en a plus. Un beau jour, une voiture blanche descendit la grande rue comme un bolide. On eut le temps de reconnaître Monsieur Merlin, à côté d'une jeune femme très blonde qui riait. La limousine noire chargée de bagages suivait à distance respectueuse. Monsieur Merlin reçoit une visite, une Parisienne. Elle ne s'amusera guère au milieu des livres et des machines. En face d'une bouche cousue. L'après-midi, un chauffeur inconnu entrant à la poste demanda « Le courrier de Madame de Landiac, je vous prie. » Les gens qui s'attardaient à commenter les nouvelles avec la buraliste se retournèrent vivement. « Monsieur Merlin est marié ?» Depuis 2 mois qu'on l'avait vu revenir, aucun ne s'en douta. « Eliane, cette vieille demeure ne vous effraie-t-elle pas ? » Dans la vaste salle à manger, aux meubles lourds, aux sombres boiseries, Monsieur et Madame de Landiac dînent sur un guéridon. La table solennelle met entre eux trop de distance. « Votre manoir me charme, il est plein de surprises. » Un peu sévère, ils l'ont parcouru ensemble, chacun des salons, la cave, les chambres, les cabinets de toilettes, 2 salles de bain, les plus modernes que j'ai jamais vues, dit Eliane. La bibliothèque, le laboratoire, où j'aurai mes entrées, n'est-ce pas? Et ce contraste entre la vétusté des façades et l'opulence de l'intérieur. Auprès de vous, comment n'être pas ébloui? Elle lui adresse un sourire, si blonde, si fraîche, un bouquet de printemps. Ses yeux dorés enveloppent Merlin d'une caresse immatérielle. Eliane, si j'essayais de vous divertir un peu, permettez que j'ouvre une fenêtre. Appuyez votre doigt sur ce bouton d'ivoire. Elle obéit. Une sonnerie éclate dans le parc ténébreux. Un carillon léger qui semble venir des arbres et des murailles, éparpillé sous les ogives des vieux chênes, réveille les oiseaux. On dirait un orchestre répandu à travers l'espace et dont les musiciens d'une branche à l'autre, survolant les clairières et les allées, accordent leur mélodie. Eliane bat des mains. Tournez ce commutateur. Le parc brusquement resplendit. Une lumière verte que tamisent les feuillages transforme les troncs en colonnes d'émeraude. Elle coule de partout, fleurissant les bosquets, tirant de l'ombre les plus lointaines avenues. Des coqs, au fond de leur poulailler, s'imaginent saluer l'aurore. Les cygnes s'ébrouent sur un miroir d'argent. « Fantastique !» s'écrie la jeune femme. « Notre garage, trop écarté, n'est pas commode, » dit Merlin. « La pluie risquerait d'abîmer vos jolis chapeaux. Alors ?» Son doigt nonchalant cherche divers points invisibles dans la boiserie. « Alors, voyez !» Eliane perçoit le ronflement d'un moteur. La porte du garage s'ouvre. L'automobile de M. de Landiac, les phares allumés, s'avance en seconde vitesse, monte l'avenue, se range au pied de la terrasse. « Mais le chauffeur » demande-t-elle avec une sorte d'épouvante, les yeux fixés sur le volant. « Je ne distingue personne. » « Il n'y a personne. » « Encore un prodige ?»« Non, ce n'est qu'une application fort simple des théories actuelles. Regardez, un geste suffit pour que la voiture réintègre son garage. » « Vous êtes un magicien, un thaumaturge. Vous... » À ce moment, le domestique apporta une dépêche. Les parents d'Eliane lui adressaient leurs bons vœux et des recommandations diverses. L'employé du télégraphe aperçut la limousine marchant toute seule à travers le parc féerique, et le lendemain, les bonnes gens du bourg colportèrent la nouvelle « Monsieur de Landiac s'adonne au sortilège ». Bientôt, dans les fermes, les cafés, à la table des voyageurs de commerce, on ne s'entretint plus que de ces diableries. Comment cette Eliane de 25 ans, si brillante et si gaie, dont le visage gardait la grâce de l'enfance, épousa-t-elle Monsieur de Landiac, un taciturne, plongé dans d'interminables recherches et qui avait le double de son âge? Les parents de la jeune fille s'opposèrent longtemps à ce qu'ils appelaient un caprice. « Puisque je l'aime, j'aime son intelligence, jamais je ne m'ennuie auprès de lui. » En vain, le père d'Eliane lui adressa-t-il de durs avertissements. « Toi, si frivole, es-tu capable de la discerner, son intelligence? Tu ne connais même pas le sens et la portée de ses recherches. Tu resteras en marge de sa vie. C'est un compagnon de plaisir qu'il te faut. Depuis que je le connais, les jeunes gens me paraissent insipides. Il y a en lui je ne sais quoi. » Comment expliquer cette puissance qui rayonne autour de la haute figure silencieuse élue par Eliane? Dès la première rencontre, elle s'est sentie subjuguée irrésistiblement. Un être d'exception, enveloppé de secrets, jouant avec des forces insoupçonnables dont il dispose à son gré. Aime-t-elle le secret? Il me confiera ses mystères. Dans le vieux manoir, elle oublie son existence de parisienne adulée. Souvent, elle rôde derrière la porte du laboratoire qui ne s'ouvre jamais en sa faveur. « Ne permettriez-vous pas que je vous aide ? » demanda-t-elle un soir timidement. « Confiez-moi de faciles besognes, des outils à nettoyer, à mettre en ordre. » Il eut un singulier regard. « Vous, ce n'est pas votre affaire. » Et la voyant déçue et assombrie, il ajouta. « Mais vous m'aidez, votre rire lumineux dans la maison, votre présence. » Ils firent des promenades à cheval et quelques visites au châtelain des environs. La grâce d'Eliane séduisait les plus défiants. Elle eut un jour, comme à Paris. Enfermé dans son laboratoire, M. de Landiac écoutait le klaxon des voitures et ne se montrait pas. Je redoute pour vous une vie trop austère. Merlin, si je n'étais pas un peu jalouse de votre science, je serais la femme la plus heureuse. Eliane, je dois partir, entreprendre un long voyage, annonça M. de Landiac un matin d'octobre. Emmenez-moi. Il n'en est pas question. Écoutez, ma chérie. Les mots caressants détonnaient sur ses lèvres. Inquiète, elle le regarda. Il parlait de sa carrière d'ingénieur qu'il avait cru terminée. Assez longtemps, il avait travaillé en Asie, en Afrique, au service de compagnies qu'il exploitait. Dans sa retraite de Saint-Roch, il pensait vivre sans souci et se consacrer à ses études. Et voilà qu'un appel lui vient du centre de l'Afrique. Mais pourquoi ne pas refuser? Parce que c'est une affaire intéressante à tous les points de vue. Le pays d'abord, et la science, et puis l'argent. Les recherches coûtent cher, Eliane, et je ne voudrais pas vous priver de votre luxe. Il s'agit de 3 ou 4 mois. « Oh ! » s'écria-t-elle, « ne plus vous voir pendant 4 mois ? Vous me verrez chaque jour, Eliane. »« Oui, dans ma pensée. »« Non, de vos propres yeux, comme vous me voyez maintenant. » Il l'emmena le long d'une avenue au plus épais du bois jusqu'à un pavillon qu'il venait de faire installer. Une pièce hexagonale tendue de toile blanche entre des frises de verre dépoli, éclairée par une seule petite fenêtre qui découpait l'or des feuillages. Pour tout mobilier, un fauteuil. « Ilyan, chaque matin, vous viendrez ici. Je vous appellerai, vous entendrez ma voix par téléphone sans fil. » Il désignait un très petit récepteur dissimulé entre deux tentures. « Il suffit qu'on le décroche pour qu'un signal me parvienne. Un simple geste. » Avec une expression de doute, elle examinait la chambre blanche. « Écoutez-moi bien, Ilyan. Lorsque résonnera la sonnerie, vous fermerez les volets et j'apparaîtrai devant vous. À la même minute, je verrai votre visage. » « Au centre de l'Afrique ? » ?»« Peu importe, la distance n'existe plus. Nous nous rejoindrons sur un rayon de lumière transformé en courant électrique. »« Ah ! » s'écria-t-elle, déçue. « La télévision, oui, je sais. Une sorte de laboratoire, de grosse machine. Une pauvre image, floue, grise, à peine reconnaissable. J'ai vu cela, oui, à l'exposition. Mais ici ? Mais dans la brousse ? Comment serait-ce possible ? Ne nous appartient-il pas de perfectionner des appareils ? La télévision bouleversera le monde, comme l'ont bouleversé la vapeur, l'électricité. « Vous vivez au milieu des prodiges, » murmura-t-elle. « Vous les faites naître autour de vous. Vos parents n'ont-ils pas lu dans l'avenir quand ils vous ont baptisé Merlin ?» Il eut un de ses rares éclats de rire. « Un nom qui n'est pas catholique. On m'a baptisé Alain. Mais tout petit, j'altérais une syllabe. » Peut-être avais-je entendu conter une histoire magnifique et douloureuse que j'ai retrouvée plus tard dans mon livre d'images. Toujours est-il que j'ai imposé ce nom que je me donnais. » Elle tomba dans les bras de Merlin. « Alors, c'est vous qui étiez averti ?»« Averti de quoi ?»« Mais de votre pouvoir, ce pouvoir que vous possédez aujourd'hui. » Ilyan jeta un regard au pavillon mystérieux. « Mon enchanteur, votre image ne peut me consoler de votre absence. » « Il n'y a plus d'absence. » Il reprit gravement. « Le matin à 9 heures. Ne manquez pas au rendez-vous. Prévenez-moi, si vous allez à Paris, rendre visite à votre mère. » On pouvait croire qu'il s'agissait de téléphoner des Invalides à l'avenue de l'Opéra. Le jour du départ, M. de Landiac dit à sa femme en pleurs « Je vous laisse un souvenir. » Il lui tendait un admirable pendentif de métal sombre, très large, où l'on avait enchâssé une bordure de rubis, d'opales et d'émeraudes. Le collier figurait une tresse ornée de minuscules fers de lance. « Promettez-moi que vous le porterez chaque jour, le jour et la nuit. »« Un talisman, Merlin, c'est un talisman ?»« Peut-être, puisqu'il vous défendra de tout mal. »« Oh ! » s'écria-t-elle, « expliquez-moi. » »« Petite fille trop curieuse. » Il attacha le pendentif au cou de la jeune femme, ravie. À l'instant de la quitter, il lui recommandait encore « Ilyan, n'oubliez pas, dans 8 jours, à 9 heures du matin, je viendrai. » Ilyan songe à cette promesse qui lui semble illusoire. Elle attend, elle s'ennuie, son grave compagnon lui manque plus qu'elle ne l'imaginait. Le parc, les allées où pleuvent les feuilles mortes, les plates-bandes défleuries, la triste. « Je n'y tiendrai pas, il faut que j'aille à Paris. » L'interminable semaine s'achève. Ilyan devance l'heure du rendez-vous. Levée plus tôt que d'habitude, elle accourt au pavillon. Elle compte les minutes, son cœur bat. Néanmoins, elle doute. 9h05, 9h15, l'étoile blanche la regarde avec ironie. Merlin n'exagère-t-il pas sa puissance ? Il a beau être savant, susciter des prodiges, conduire de loin sa voiture, par exemple. Il est des choses impossibles. 9h30, il ne viendra pas, il s'est vanté. Possède-t-il d'autres secrets que ce pouvoir d'envoûtement ? Déçue, elle éprouve la rancœur de ceux qu'on a trompés. Dans quelques minutes, elle s'en ira. Soudain, le pavillon tressaille. Une sonnerie, elle décroche le récepteur. La voix de Merlin l'appelle. Ilyan, fermez le volet. Elle obéit. À peine plongée dans l'ombre, le pavillon s'éclaira d'une étrange lumière. Au même instant, M. de Landiac apparut, si net, si vivant, qu'Ilyan faillit se jeter dans ses bras. Il souriait, les mains tendues. À le voir ainsi, respirant tout près d'elle en plein relief et coloré, la figure un peu lasse, ses yeux clairs plus vifs que de coutume, elle fut prise d'épouvante. Lui-même ou son reflet ? Un fantôme, peut-être. Ceux qui viennent de mourir apparaissent à leur bien-aimé. Suprême avertissement. Le cœur crispé d'angoisse, elle tremblait, appuyée à la cloison. Pourquoi si pâle, Eliane ? Ne craignez rien. Je vous envoie mon image en échange de la vôtre. Ô chère image, tu peuples ma solitude, et chaque jour désormais tu me fascineras. Ces inflexions émues, cette tendresse, l'effigie de la femme adorée semble d'un plus grand prix que sa présence réelle. Eliane se rassure, peut enfin sourire, elle accueille un étrange bonheur et répète les paroles de M. de Landiac. Il n'y a plus d'absence. Du fond de son désert, il trouve encore moyen de l'enchanter. Le voir si proche, alors qu'elle le sait si lointain. Chaque jour, il se communique les menus détails de leur vie quotidienne. Un scorpion sous votre tente, c'est affreux. Un mauvais rêve, Eliane, n'écoutez pas les mauvais rêves. Penchez-vous un peu, que je vous embrasse. Elle oublie sans cesse qu'elle ne contemple qu'une image. Un matin, la femme de chambre fit irruption, troublant leur tête-à-tête. « Madame, le jardinier désire savoir, il s'agit des oignons de tulipe. Madame veut-elle en bordure les roses ou les rouges ? Parce que... » La jeune fille sidérée s'interrompit. « Monsieur est revenu ?» Eliane tenta d'expliquer le prodige. En vain, le mot de télévision, lettre morte pour cette innocente qui écoutait la voix irritée du maître. « Vous m'aviez promis que nous serions seuls. » Dès lors, Eliane s'enferma dans le pavillon. Les gens de Saint-Roch eurent de quoi s'ébaubir. Le sorcier voyage en Afrique, et il apparaît à Landiac. Quelques jours plus tard, elle reçut la visite d'un jeune homme qui se présentait avec désinvolture, François Chasseneuil, physicien chimiste. Il inclina sur la main d'Eliane une belle tête brune. Passant à Saint-Roch, descendu à l'hôtel de France, il n'avait pu résister au désir de voir M. Alain de Landiac, dont il admirait les travaux. Il parut fort surpris d'apprendre que le maître était absent. M. de Landiac, un des plus grands hommes du siècle, son ouvrage, Rayons et courants électriques, est une œuvre capitale. Eliane avoua l'ignorer. La voix de Chasseneuil, chaude et vibrante, trahissait un léger accent britannique. « J'ai été élevé à Londres, expliqua-t-il, mais j'appartiens à une vieille famille française. » En s'excusant d'être indiscret, il demanda la permission de revenir, qui lui fut vivement accordée. « Mon mari est très heureux quand je reçois des visites. » Chasseneuil éprouve une telle joie à respirer l'atmosphère du savant. Il prépare une monographie intitulée « Un physicien prophète ». Madame de Landiac pourrait lui donner certaines précisions, des conseils. Elle accepte, flattée d'être enfin prise au sérieux. Le lendemain, Eliane, qui sortait pour sa promenade à cheval, le rencontra dans l'avenue. « Madame, si j'avais une monture, je solliciterais l'honneur de vous accompagner. Voulez-vous le cheval de mon mari ?» Ils galopèrent sous les arceaux dorés des vieux arbres. Comme ils se rapprochaient du pavillon blanc, Chasseneuil insinua. « Au village, on raconte un grand secret. » Elle finit de ne pas entendre. Ils abandonnèrent leur monture dans un fourré et leur causerie devint plus intime. Chasseneuil parlait des recherches de M. de Landiac, et Eliane se plaignit de ne pas les connaître. « Il me tient à l'écart de ses travaux, oui, en marge de sa vie. » Elle éprouvait l'affreuse tentation de savoir, grâce au complice inattendu, singulièrement informé. « M. de Landiac ne s'est point tiré parti de son génie, » s'écria Chasseneuil. « S'il voulait entrer dans une combinaison financière, il gagnerait une fortune, et cette fortune, mise au service de la science, » Il ajouta, « Je dispose de très gros capitaux. Je commanditerai ses entreprises, et même s'il le veut bien, je serai son assistant. » Eliane songeait au pavillon, à l'image apparue chaque jour. « Cette fantaisie charmante intéresserait des financiers. Ne comprenez-vous pas que de telles découvertes transformeront la guerre ?» Les yeux fixés au loin, perdus dans sa pensée, il semblait ne pas entendre ses propres paroles. Une aussi formidable puissance, la plus destructrice, la plus maléfique de toutes celles que détiennent les hommes. Ils prirent le thé sur la galerie. Chasseneuil admirait la splendeur du parc. Ce beau pays, un peu solitaire pour une jolie Parisienne, favorise les recherches du savant. Il demanda tout à coup, « Voulez-vous me montrer son laboratoire ?»« Mais, dit-elle, je n'y suis jamais entrée, je n'ai pas la clé. » « Que ce détail ne vous inquiète pas. » Ils montèrent les deux étages. Au seuil du laboratoire, il tira de son gousset un instrument bizarre. Ilian ne put réprimer un cri en voyant la porte s'ouvrir. Une vaste pièce, bondée de tubes métalliques, de flacons, d'inextricables écheveaux de fil, l'appareil rébarbatif et incompréhensible de la science. Chasse-Neuil marchait entre les tables, examinait les machines, les bocaux dont il lut les étiquettes. Il s'arrêta longuement devant une boîte rectangulaire qui contenait un tube d'acier. Il prit des notes, enfin, retournant vers Ilian, « Je vous remercie, madame, d'autoriser ce pieux pèlerinage. » Elle l'accompagna jusqu'à la grille du parc. Ils devaient se revoir le lendemain. Dans le pavillon blanc, Ilian fut bouleversé par la face durcie de M. de Landiac, le blâme de son regard. « Vous avez accueilli dans notre maison un inconnu. Vous lui avez offert mon cheval, et vous vous êtes promenés ensemble. Vous l'avez introduit dans mon laboratoire. » Elle balbutiait de confuses défaites. « Votre laboratoire, mais je n'ai pas la clé. Elle ne vous quitte jamais. Elle est en Afrique, sans doute. » « Ilian, prenez garde. Lorsque j'examine les traits de votre visage, je vois qu'il sait dissimuler. » Elle essaya de se défendre, entreprit l'éloge de François Chasse-Neuil, un admirateur fervent, digne du maître. « Il a lu vos ouvrages. Il ne demande qu'à faire valoir vos découvertes. Il veut mettre à votre disposition d'énormes capitaux. Une fortune qui s'offre, une chance inespérée. Pourquoi ne pas le prendre comme associé ?» Monsieur de Landiac eut un sourire coupant. « Ilian, vous allez me promettre de ne pas le revoir. » Elle promit ce qu'il voulut pour l'apaiser. À force de gentillesse, elle obtint son pardon. Elle obtint même un sourire. « J'ai votre parole, » redit-il au moment de l'adieu. Elle pensa, « Il faut que je transmette cette réponse. » « Cette injuste réponse !» Désenchantée, la jeune femme regardait l'effigie de Merlin s'effacer sur la tenture blanche. Puis elle s'éloigna, en répétant avec irritation « Il refuse une fortune ? Quel orgueil !» Un brusque malaise l'interrompit. « Comment peut-il savoir ?»« Je suis désolée, » dit-elle à Chasse-Neuil, lorsqu'il entra le même jour. « Monsieur de Landiac ne veut rien entendre au sujet de votre association. » Le visiteur ne fit aucune remarque. Il tenait Ilian sous le magnétisme de ses yeux noirs. « Madame, demanda-t-il après un silence, me conduirez-vous dans ce pavillon qui recèle tant de mystères ?» Ilian ne répondit pas. Elle évoquait le regard terrible, la figure blême et violente qu'elle avait contemplée le matin. « Je voudrais prendre une photographie pour illustrer l'étude que je consacre à votre mari. » Il ajouta, souriant. « Si Monsieur de Landiac refuse des capitaux, c'est une raison de plus pour moi de l'admirer davantage. » Elle pensait, « Un tel homme n'est pas dangereux. Merlin se trompe. »« Écoutez, » murmura-t-elle, « il nous a vus dans le parc. Il vous a vu ouvrir la porte de son laboratoire. » Chasse-Neuil la contemplait avec stupeur et lui fit répéter ses paroles. « C'est impossible, madame. Je vous affirme que c'est impossible. Rien ne lui échappe, aucun détail. Il a reconnu son cheval. » Le front appuyé sur sa main, oubliant la présence d'Ilian, il s'adressait à lui-même. Le pavillon, un appareil de balayage, des oscillographes cathodiques et des récepteurs dissimulés dans les parois. La chose est relativement simple pour un homme tel que lui. Mais le laboratoire, et quant au parc ? Il alla se pencher à la fenêtre du petit salon. Il réfléchissait, immobile. Puis, se tournant vers Ilian, « Madame, expliquez-vous cette surveillance ?»« Oh, moi, je ne m'étonne plus de rien, mais je suis furieuse qu'il vous écarte sans vous connaître. Qui sait, plus tard peut-être sera-t-il moins injuste ?» Le regard fixé sur elle, il semblait ne pas l'entendre. Gêné, Ilian lui offrit un verre de Porto. « Madame, » dit-il, sortant d'un long silence, « vous avez là un merveilleux pendentif. Permettez-moi de le voir de plus près. » Elle le détacha, il le lui prit des mains et parut l'étudier en amateur expert. Quel beau travail ! Un talisman que M. de Landiac m'a laissé, fit Ilian avec un sourire, il me garantira de tout mal. Prévoyez-vous une catastrophe d'ici demain ? Oh non, pourquoi ? Parce que je voudrais l'examiner chez moi, au microscope. Je n'identifie pas ce genre de sélénium. Peut-être alors pourrais-je vous démontrer la vertu de votre talisman. Elle hésita, perplexe. Ce joyau cache sans doute un mystère, madame. Je vous le révélerai. Pouvoir dire à son mari « Je sais tout, je comprends tout, et vous me traitez en petite fille. Quelle revanche, quel triomphe !» Dans son émoi, l'étourdi ne songea point que le regard invisible, ce regard auquel rien n'échappe, était peut-être fixé sur eux à l'instant même. « Je vous le prête jusqu'à demain matin. Vous me le rapporterez sans faute, demain avant 9 heures. J'ai votre promesse. » Il acquiesça et prit congé. Il emportait le pendentif. Dans l'avenue, sous le brouillard matinal, Eliane attendit Chasseneuil, tremblante de froid et d'inquiétude. Il ne vint pas. À la dernière minute, elle courut au pavillon, enveloppée d'un châle qui dissimulait son cou. À peine osa-t-elle regarder le visage de M. de Landiac. Ses premiers mots l'épouvantèrent. « Ôtez ce châle. Mon ami, il fait si froid ce matin. Pourquoi n'avez-vous pas votre pendentif ?» Elle feignait de la surprise, et repoussant l'étoffe soyeuse, elle s'écria « Oh, je l'ai oublié sur ma table, hier au soir. C'est la première fois. Je ne vais pas me casser la jambe, au moins, en sortant d'ici. » La plaisanterie sonna faux. Sous le regard scrutateur de Merlin, Eliane se perdait dans ses pauvres excuses. « Et ce matin, figurez-vous, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Il s'est égaré quelque part, mais je le retrouverai. » L'impitoyable certitude qu'il avait dans les yeux. D'où lui venait une telle certitude? On eût dit que le mensonge d'Eliane, soudain visible, s'inscrivait sur ses lèvres balbutiantes. Il ne prononça aucune parole. Quelques secondes plus tard, son visage s'évanouit, laissant la jeune femme décontenancée, malheureuse, prête à pleurer. Elle attendait la visite de Chasseneuil, mais, en vain, elle le guetta dans l'avenue, puis derrière les rideaux du petit salon. « Pareil sans gêne, il se moque de moi. Ah, j'ai eu tort de le prendre au sérieux. Il faut qu'il me restitue le pendentif aujourd'hui même, sinon que deviendrai-je ? » Le soir tombait lorsqu'elle décida de téléphoner à l'hôtel de France. Elle crut défaillir en écoutant la réponse. « Chasseneuil, vous dites Chasseneuil ? François Chasseneuil connaît pas, madame. Je suis sûre de ne pas me tromper. Enfin, madame, puisque je vous certifie que nous n'avons jamais vu ce monsieur à l'hôtel. » Glacée, elle s'enferma dans sa chambre. Ainsi, cet homme ne serait qu'un imposteur qui cherche à dérober les secrets de Landiac. Que répondre à son mari quand il l'interrogera? Sa main tremblante eut peine à tourner la clé dans la serrure. S'il était auprès de sa femme, peut-être l'aurait-elle désarmée. L'enlacement des bras tièdes, les cheveux défaits, les caresses, les étreintes, mais fléchir une image, la pauvre voix qui implore d'un continent à l'autre, les larmes si lointaines ne calmeront pas cette légitime colère. En vain, elle attendit la sonnerie. Le pavillon resta muet et sombre. 3 matinées coulèrent sans que M. de Landiac parût. Eliane ne savait que penser. L'après-midi du 3e jour, arriva une enveloppe qui portait le timbre de la poste aérienne. Des nouvelles d'Afrique? Pourquoi Merlin écrivait-il au lieu de parler? Elle déchira le pli et des photographies s'échappèrent de ses doigts. Elle retint une exclamation. Le visage de Chasseneuil! Chasseneuil à cheval dans le parc! Chasseneuil penché sur une table au laboratoire! Chasseneuil inclinant la tête pour examiner quelque chose! Le porto servit! Mais c'est le pendentif qu'il examine avec une attention aiguë. Puis l'écriture de M. de Landiac, une seule ligne. Récuserez-vous ces témoins véridiques? Une terreur folle s'empare d'Eliane. Ses actes voyageant à travers l'étendue, inscrits sur des plaques sensibles, les yeux de Merlin qui la suivent, l'interrogent minute après minute. Aux prises avec l'inexplicable, vaincue, elle cesse de se défendre. De quel pouvoir Merlin dispose-t-il? Quel secret enferme le joyau? Un secret que Chasseneuil a pressenti. Ne parlait-il pas de la guerre? De telles découvertes transformeront la guerre. Ces découvertes, il cherche à les voler. Et elle est devenue la complice de ce traître. Curiosité, amour-propre, peut-être sourde rancune à l'égard d'un mari trop distant. Merlin pardonnera-t-il jamais? Eliane mesure le désastre et sanglote. Elle s'aperçoit qu'il fait nuit, et refusant de dîner, elle s'élance au dehors. Le parc sera son refuge. Elle marche à l'aventure dans les ténèbres. Le brouillard tombe sur ses épaules, plus lourd qu'un drap mouillé. L'allée, tant de fois suivie, s'offre à sa promenade automatique. Eliane veut rebrousser chemin, mais il faut qu'elle continue, qu'elle aille là-bas, ce soir, comme si elle répondait à un ordre secret, invinciblement attiré. Les marches du pavillon l'essoufflent. Ses doigts fiévreux cherchent la clé pendue à sa ceinture. La porte s'entrebâille d'elle-même. Une lueur va et vient, reflétée par l'étoile blanche. Eliane, immobile, distingue une ombre au bout de ce ray de lumière. L'ombre se redresse et la voix de Chasseneuil brise le silence. « Que venez-vous faire ici, madame ? Et vous ?» Eliane, frémissant d'une colère soudaine, domine sa frayeur et lui jette un sarcasme. « Peut-être rapportez-vous mon pendentif ?»« Admettons, madame, que j'ai un examen à faire concernant les appareils de monsieur de Landiac. Je documente l'article dont je vous ai entretenu. « Misérable, vous venez surprendre ces secrets » crie-t-elle, oubliant toute prudence. « Si vous ne partez pas, je sonne, et je charge mes domestiques de vous reconduire. » Elle paie audace. Nulle sonnette ne relie le château. « Gardez-vous-en bien, madame. Un malheur pourrait vous atteindre. Vous n'avez plus de talisman. » Sous l'ironie perce une menace inflexible. « Je vous conseille de sortir, madame. »« Non !»« Alors restez tranquille, dans ce coin. » Dissimulant son angoisse, elle pose une question. « Qu'allez-vous faire ? Emporter les appareils ?»« Je les rendrai, madame. » « Comme le pendentif, n'est-ce pas ? Madame, je vous ai dit qu'il vaut mieux pour vous que je reste l'hôte à qui vous faisiez l'honneur de le traiter avec sympathie. » Elle perçoit la menace plus précise. Cet homme est capable d'un crime. Elle recule jusqu'aux toiles blanches qui servent d'écran et demeure immobile, résolue à tout voir, à ne pas abandonner l'œuvre de Merlin. Chasseneuil, la croyant matée, ne s'inquiète plus d'elle et continue ses recherches à l'autre bout de la pièce. Il arrache une tenture et promène sa lanterne sourde le long des boiseries. Sa main découvre une plaque de verre et s'efforce de la dévisser. Eliane, attentive, recueille tous les grincements de l'outil. Peu à peu, elle imagine saisir à travers sa détresse comme un murmure. Le pavillon semble lui restituer les paroles de M. de Landiac. « Ne craignez rien. Il suffit d'un geste pour que m'atteigne votre signal. » Elle retrouve un peu de calme. Muette et pareille à une ombre, elle élève le bras imperceptiblement. Ses doigts rencontrent le récepteur caché sous l'étoffe, le décrochent sans bruit. Merlin peut la secourir. N'est-il pas le maître des rayons et des courants, des ondes et des hommes? Mais si l'appel s'égare au milieu du désert, Eliane, abandonnée, n'aura d'autre ressource que de crier de toute sa force dans l'espoir que le vieux jardinier la délivre. Elle tient le récepteur pressé contre son oreille, en feignant de soutenir sa tête accablée. Les minutes passent, interminables. On n'entend que cette monotone lamentation des vis qui cèdent les unes après les autres. Tout à coup, Eliane respire. Le cauchemar s'éloigne. Un chuchotement résonne dans sa chair, si ténu qu'elle seule peut le percevoir. Ne bougez pas, ne parlez pas, ne répondez pas surtout. « Je vous vois. Ne craignez rien. » Un temps, les secondes s'appesantissent. Chasseneuil se sert d'un marteau pour faire sauter la cheville qui retient encore la plaque. Des syllabes à peine distinctes recommencent à frémir dans l'oreille d'Eliane. « Allongez votre main droite. Vous sentirez à travers la tenture une manette verticale. Empoignez cette manette. Abaissez-la brusquement. » Mais pour Dieu, ne bougez que votre main. Il a un revolver dans sa poche. La plaque de verre se brise avec fracas. Chasseneuil jette le marteau sur le tapis. Les doigts tâtonnants d'Eliane se sont heurtés à la manette qui résiste. Un pauvre bras de femme aura-t-il assez de force? Mon Dieu, aidez-moi! Une sueur d'angoisse mouille son front. Ce grelottement qu'il s'agirait de maîtriser ne se propage-t-il pas à travers la pièce? Dernier sursaut d'énergie, à tout prix suivre l'ordre de Merlin. Victoire, la manette vient d'obéir à la pression des doigts. Un déclic, le bâtiment tressaille. Chasseneuil se retourne, se dresse, et son revolver tendu accroche la lueur errante. Eliane, terrifiée, distingue le canon braqué sur elle. Merlin, c'est fini, il me tue, Merlin! Le meurtrier lève sa lanterne pour mieux voir sa victime. mais c'est lui qui soudain vacille, c'est lui qui s'affaisse, le choc d'un corps s'effondrant, les ténèbres opaques, puis un affreux silence. Le pavillon s'éclaire, sur la toile illuminée, la figure de Merlin se découpe en relief. Sa voix vibrante ranime Eliane. Rentrez à la maison. Téléphonez immédiatement à la police de Saint-Roch. Oh, Merlin, il est mort ?
Non, étourdi par une décharge électrique.
Merlin, pardon, je voudrais vous dire...
Plus tard, fermez la porte à clé. Vite, au téléphone, ne perdez pas une minute.
Eliane court le long des allées obscures. Enfin, la maison, de la lumière. Dans le vestibule, elle rencontre un domestique, blême et hors de lui. « Madame, oh madame, le jardinier, le pauvre père Delport, vient d'être assassiné à l'entrée du bois. Je l'ai trouvé la gorge ouverte, encore chaud. »
Merlin, peut-être le verrai-je aujourd'hui ? Murmure Eliane en se rendant au pavillon, très faible encore, après quelques jours de fièvre. Sous la capricieuse averse de soleil qui chauffe les derniers feuillages, elle croit sortir d'un rêve maléfique. Une aspiration douloureuse gonfle son cœur. Revoir Merlin. Avec une sorte de crainte, comme si elle s'attendait à se trouver en face de Chasseneuil, elle pénètre dans le pavillon. Mais aucune sonnerie ne rompt le morne silence. La tenture demeure inanimée. Merlin ne viendra pas. Merlin l'abandonne. Et elle s'imaginait obtenir son pardon. Le visage inondé de larmes brûlantes, elle s'affaisse dans le fauteuil. La porte qui s'ouvre bruyamment, une silhouette inscrite sur le flot de soleil. Quelqu'un est entré, Eliane relève la tête. Merlin, son rire, ses bras tendus, ses yeux rayonnants, lui.
Je ne vous ai pas prévenu, je craignais de manquer l'avion. Je ne pouvais plus vous laisser seule, Eliane.
On est parvenu à l'identifier, dit Monsieur de Landiac en rejoignant sa femme. Son vrai nom est Harry Damshire, un espion probablement, ou peut-être l'agent d'un service plus secret, un de ces hommes qui ne se refusent à rien pour exécuter leurs consignes.
Sa consigne ? Voler vos découvertes ?
Une voiture et deux complices l'attendaient au bord de la route, un endroit bien choisi, désert, en plein fourré. Ils ont disparu, ils auraient disparu avec Damshire et l'une au moins de mes trois balayeuses avant que vous n'alarmiez la maison. Votre présence d'esprit les a sauvés. Nous a sauvés du plus affreux malheur. Il se tait, il songe au vieux jardinier que Damshire égorgea froidement, au revolver braqué sur Eliane.
Et le pendentif ?
Murmura-t-elle avec un accent de honte. On ne l'a pas retrouvé, et c'est la pire angoisse. Après un silence, M. de Landiac ajoute : étrange criminel. Il ne sort de son mutisme que pour parler de mes ouvrages. Avec une intelligence.
Merlin, puisque vous m'avez pardonné, dites-moi quelle vertu extraordinaire possède ce joyau.
Extraordinaire ? Non. Les forces qui nous entourent ne paraissent extraordinaires que parce que nous sommes des ignorants.
Vous disposez d'une puissance formidable, dit-elle, se rappelant une parole de Chasseneuil.
Le secret n'en doit pas être divulgué.
Mais à votre Eliane, qui ne vous mentira plus, puisque vous êtes l'homme à qui l'on ne peut mentir.
Serez-vous bien avancé de savoir qu'une cellule photoélectrique se réduit à un très petit volume ? On peut la dissimuler dans un joyau, et qu'elle transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique. Même les rayons invisibles, les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets. Donc, elle peut projeter les images à distance si elle rôde entre deux postes de télévision comme ceux que je loge dans mes arbres, et ailleurs. Disons pour être plus clair, qu'elle photographie au passage les objets qui lui font face.
Ah ! Soupire-t-elle, incertaine et effrayée. Si je l'avais encore, ce pendentif, je n'oserais plus le porter.
Eliane, vous souvient-il d'une très vieille histoire ? L'histoire de ce vieil enchanteur dont le nom impressionna mon esprit d'enfant. Merlin aimait la jolie fée Viviane et se croyait aimé, mais il la savait fragile et fantasque, et peut-être à moitié sincère. Il se défiait d'elle. Un jour, Viviane parvint à le fléchir, et il lui livra les secrets de sa toute-puissance. Elle s'en servit pour le dépouiller de son pouvoir, et disparut en le traitant d'imbécile.
« Oh, Merlin ! S'écrie-t-elle, bouleversée. « Voulez-vous dire que je ressemble à l'odieuse Viviane ?»
Monsieur de Landiac regarde cette femme qui l'a trahi,
devenu l'instrument d'un criminel et presque sa complice. Avec un sourire d'indulgence, il baise les beaux yeux pleins de larmes, et la prenant sur son cœur, il murmure « Eliane, je vous aime, et parce que je vous aime, je ne vous confierai point mes secrets. » Ici se terminent les secrets de M. Merlin. Enregistré par Christiane Jehanne.